D'abord, trois petites remarques. Ce que l'Esprit de Dieu communique à l'Église est cohérent. Pour bien le saisir, il est important d'avoir tout ce que l'Esprit dit à l'Église, pour bien comprendre. Et donc, c'est important pour vous d'assister à toutes les réunions. Ça va vous permettre de comprendre l'ensemble, le plan de Dieu pour cette Église. Vraiment, c'est une exhortation, là, pour que vous ne manquiez aucune réunion. Là, vous comprendrez la vision de Dieu pour cette Église. Ce que le Saint-Esprit, ce qu'il fait, est cohérent. Il y a une continuité dans sa perfection. Alléluia. Une deuxième remarque qui est importante, c'est lorsque vous entendez la parole de Dieu, filtrez-la. Que votre esprit témoigne que c'est bon. S'il dit que c'est bon, prenez-la. Filtrez-la. Vous êtes des créatures de Dieu, vous avez le moyen de le faire. Alléluia. Donc filtrez-la. L'esprit va vous guider pour savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Et la troisième remarque, c'est que je vous aime. Ça, j'avais envie de le dire. Voilà. C'est dit. Alors, avant de prier pour la prédication, j'ai beaucoup de préambules, moi. J'aime bien ça, les préambules. Hein. Alors, avant de prier, on va se rappeler, aujourd'hui, c'est le troisième volet de la foi qui parle et qui porte le fruit. Premier dimanche, on a parlé de la foi de Dieu. Cette foi qui crée. Cette foi qui a créé avec la puissance de Dieu. Et on a dit que on a été conçu à l'image de Dieu. Et que donc, par la foi, on peut activer la puissance de Dieu. La foi, quand nous l'exprimons, est créatrice. Ensuite, on a parlé de la foi de Jésus. La foi parfaite de Jésus. La foi qui n'a pas de doute. Même pas l'ombre d'un doute. Et on a vu ce que ça faisait. Il marche sur l'eau. Il apaise la tempête. On a vu même que au travers de sa foi, Pierre a pu marcher sur l'eau, sur la foi, sur l'expression de la puissance de la foi. On peut le faire, Pierre l'a fait, on peut le faire. Et ce troisième volet, donc, on a parlé de la foi de Dieu, la foi de Jésus, on va parler de la foi victorieuse, la victoire dans la foi. Ça nous concerne, ça vous concerne, alléluia. Parce que la route est ouverte, la route est ouverte. On a l'habitude, dans cette église, qui fait partie du corps de Christ, et qui n'est pas la moindre. C'est un phare sur Drummondville. Alléluia! Oui, voici un livre qui contient la parole de Dieu. Ceci est ma Bible. Ce qu'il y a dedans a été inspiré par Dieu. Et elle dit la vérité. Toute la vérité. Ce qu'elle dit que je peux faire, je le fais. Ce qu'elle dit que je peux avoir, est à moi. Et ce qu'elle dit que je suis, c'est le plan de Dieu pour ma vie. Et je le suis. Alléluia. Je proclame que la semence de Dieu que je vais recevoir aujourd'hui me transforme de gloire en gloire et que jamais plus je ne serai le même. Alléluia! C'est bon! C'est bon! Plus que vainqueur! Voilà quel est l'objectif que Dieu a fixé pour notre vie. Plus que vainqueur! Plus! Afin que nous puissions donner dans notre victoire. Alléluia. La foi réelle, la base de la vie du chrétien, se rit des obstacles. Et c'est une foi qui produit des résultats. Vous savez, il n'est pas possible d'avoir une foi réelle en Jésus, ce qu'il a fait, sans aimer sa personne. Car il est l'expression de l'amour de Dieu. L'expression de l'amour parfait de Dieu. Et l'amour, dans la perfection, n'existe qu'en lui. Notre foi a cette particularité qu'elle s'attache à la personne de Christ, à Christ, alors que nous ne le voyons pas de nos yeux. Mais, au travers de nos yeux spirituels, nous savons qu'il est présent au milieu de nous. C'est sûr que quand nous serons avec lui, ça sera plus facile, parce que nous allons le voir. Mais cette foi, pour être plus que vainqueur, on doit l'avoir maintenant, dès maintenant. Parce que ceci doit se démontrer, se montrer dès aujourd'hui. Alors, il s'agit de quelle foi ? Il s'agit de la foi où nous reconnaissons que Jésus est Dieu, et que Dieu est celui qui est, que tout a été créé par lui, et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et ensuite, l'autre expression de notre foi, c'est notre foi que nous savons ce que Jésus a fait. Nous savons avec certitude que Jésus nous a sauvés. Voilà quelle est l'expression de notre foi. Notre foi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est maintenant qu'on en a besoin. Alors que nous sommes présents dans un monde où on ne peut pas le voir. Avec la foi, il est possible de le rendre aussi visible que s'il était là physiquement. Aussi réel que lorsque nous serons avec lui pour l'éternité. Alors pour le voir par la foi, il faut que tout ce qui nous entoure, ce que nous voyons, perde cette réalité trompeuse que le monde nous montre, afin que nous le voyions, lui, par nos yeux spirituels. C'est les yeux de notre amour. C'est les yeux de son amour. Alors c'est sûr que la foi est tout aussi efficace pour voir ce qui ne se voit pas, et aussi efficace pour ne pas voir ce qui ne doit pas se voir. Certaines choses que le monde nous montre n'est pas vraies. Les maladies, les maux de tête, c'est pas la réalité. Parce que c'est pas la volonté de Dieu. Tout ce que le monde nous pousse à croire, on peut par la foi ne pas le voir. En plus d'une mesure de foi, ce que nous avons reçu, quand nous avons accepté Jésus, comme un bagage, certains diront une armure, venez mercredi, c'est bon. Tous les outils, je dis bien tous les outils pour faire grandir cette foi et surmonter tous les obstacles. Je ne dis pas certains obstacles. Oh, celui-là, il est trop haut. Celui-là, ouh, c'est trop dur. Non, tous les obstacles. Ces outils, c'est la parole de Dieu qui nous révèle Christ. Et c'est la prière. La prière qui nous permet de sentir sa présence et d'établir une communication avec lui. Une communication spirituelle avec lui. C'est une relation intime où on lui dit, en fait c'est un échange, on lui dit ce qu'on a besoin et il nous donne ce qu'on a besoin. C'est équitable. C'est ce qu'il veut. Donc c'est une relation intime où il va nous donner ce qu'on a besoin, il va nous donner réconfort, des conseils, de l'affection et surtout une direction et une vision. C'est important. La foi est ce qui fait la force du croyant. Elle réalise divinement et extraordinairement les choses que l'on espère, tout comme si on les possédait déjà. Ces choses existent pour le cœur, parce que le cœur a la certitude et l'assurance de leur existence. La foi est une vue évidente de ce qui est caché, et elle nous donne la même certitude sur l'invisible que nos yeux pourraient nous donner d'une chose bien tangible qu'on peut même toucher. Rien n'honore plus Dieu qu'une grande foi. Pourquoi ? Parce que c'est une foi qui ne compte que sur Dieu et rien que sur lui pour tout ce que nous avons besoin. Et en dépit de toutes les contradictions, c'est reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu et c'est accepter de prendre possession de notre héritage en Christ. Voilà ce que c'est. C'est sûr qu'on peut le refuser, cet héritage. Mais pourquoi voulez-vous le refuser ? C'est donné gratuitement. Cela, écoutez bien, nécessite une parfaite franchise, une parfaite honnêteté, un état de pureté devant Dieu et devant le monde aussi. La tromperie, la duperie, l'escroquerie, le mensonge, la manipulation, la dissimulation, l'hypocrisie, la vantardise, l'orgueil, tout ceci est un frein puissant qui nous empêche d'exprimer notre foi. Par exemple, ne pas restituer ce qui appartient à Dieu est considéré par Dieu comme un vol. Ne j'irai pas plus loin un moment. Cela lui appartient. C'est la même chose avec le monde. Nous devons respecter ce que nous devons au monde et ne pas essayer intentionnellement en tout cas, de retrancher ce qui appartient à autrui. Ou même à l'État, au gouvernement. Je parle des impôts, par exemple. Une dette doit être payée. Il faut être en règle avec le Seigneur, mais aussi en règle avec nos frères et sœurs, et en règle avec le monde. C'est sûr que ce point précis peut représenter une épreuve. Mais, tant mieux, plus l'épreuve est grande, et plus grande sera la victoire. Parce qu'on est assuré de la victoire. Devant une épreuve, ne vous dites pas « Ouh là là !» mais dites « Chouette !» Quelle victoire ! Ce n'est pas Dieu qui envoie les épreuves. Ce n'est pas Dieu qui envoie les épreuves. Mais au travers des épreuves, notre foi, quand elle est dirigée vers la source, vers Dieu, va se fortifier, grandir. Et le but de tout cela, c'est de glorifier Dieu. C'est au travers de ces obstacles que nous voyons nos faiblesses. Et c'est au travers de ces faiblesses que nous voyons la fidélité et la bonté de Dieu. Dieu nous aime, il nous faut l'expérimenter pour comprendre à quel point il nous aime. Petite parenthèse personnelle, le jour où j'ai compris comment Dieu nous aimait, quelle grandeur, hauteur, profondeur, j'en ai eu mal. Mal physiquement, dans toute ma poitrine, c'était trop. Cet amour était tellement grand. Et ce que j'ai perçu, c'est une toute petite parcelle de son amour. Son amour est beaucoup plus grand. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Son amour est vraiment très grand. Waouh. Alors, Dieu nous demande d'établir notre foi sur un fondement bien plus solide que nos sens. Ce fondement, c'est la parole. C'est sa parole. Nos sens sont trompeurs. Ou peuvent nous tromper. C'est souvent des mirages éphémères. Mais la parole de Dieu, elle ne change jamais. Elle était là avant. Elle est là maintenant. Elle sera là pour l'éternité. Elle ne change jamais. Alléluia. C'est un fondement qui est beaucoup plus solide que tout ce qui a été créé. Elle existait avant. Alléluia. La foi ne fait pas faire ce que l'on veut, mais fait faire ce que dit la parole de Dieu, en utilisant la puissance et la force du Seigneur. La certitude dans la foi, c'est un cœur qui est rempli d'amour. De quel amour ? L'amour de Dieu. Qui ne se préoccupe pas des moyens que Dieu va utiliser pour répondre à nos besoins. C'est important. Souvent, quand on a besoin de quelque chose, oui, mais comment il va faire Dieu pour le faire ? Vous croyez vraiment que vous allez apporter une réponse à cette question ? Vous croyez vraiment que c'est important ? Non. La vraie foi ne se préoccupe pas des moyens que Dieu va utiliser pour répondre à nos besoins. Ce qui est sûr, c'est que Dieu va utiliser un moyen pour répondre à nos besoins. Et nous serons pourvus, nous serons bénis plus que nécessaire. La Bible le dit. Afin de quoi ? De pourvoir à nos besoins, mais en plus de pouvoir faire de bonnes œuvres. Vous savez, Dieu ne laisse rien inachevé. Ce qu'il a commencé, il le termine. Et plus que ça, ce qu'il a commencé, il le termine et il le rend parfait. Le rendre parfait, c'est, en plus d'être achevé, c'est que nous puissions lui rendre grâce. C'est là que c'est parfait. Nous puissions le rendre grâce. Oui, toi qui as pu le faire. Je reconnais que c'est toi, parce que moi je ne pouvais pas. Alléluia. Ce que veut Dieu de nous, c'est que nous vivions dans une totale dépendance envers lui. Il veut être notre Père. Et il veut que nous soyons ses enfants. Et pas pour rien qu'il nous a appelés ses enfants. Parce que lui, il veut pourvoir. Et c'est normal pour un père de pourvoir à ses enfants. C'est naturel. Dieu est papa. Dieu est notre père. Notre papa. Nous ne sommes pas de ce monde. Ça, vous l'avez compris. Et nous ne pouvons pas vivre selon le monde. Mais nous devons vivre en ce que nous sommes en réalité. Et c'est exactement ce qu'a fait Jésus pendant son ministère sur la terre. Il nous a montré, à travers de son exemple, qu'on peut le faire. on peut suivre son exemple. Vous savez, Dieu n'a pas fixé de limite dans les bénédictions qu'il nous accorde. On peut toujours compter plus sur Dieu. Et il accordera plus. Il n'y a pas de limite. Marc 9, 23 dit « Toutes choses sont possibles à celui qui croit. » Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Vous savez que Dieu ne nous dira jamais « Oh, toi, je t'ai assez donné, hein, t'as assez reçu, puis tu attends trop de moi, là. » Impossible. C'est sa joie de répondre aux espérances de son peuple. Et plus la demande est importante, et plus Dieu prend joie. Parce que plus la demande est importante, et plus nous devons mettre notre foi en action. Tenir ! C'est un bel exemple. Et ça, Dieu aime. C'est notre foi qui plaît à Dieu. Vous savez ce qu'il dit Dieu dans... J'ai découvert ce... Je l'avais lu, et pourtant, je n'avais pas vraiment saisi. C'est dans Psaume 81, verset 10. C'est vraiment extraordinaire ce verset. C'est vraiment Dieu qui m'a montré ça, c'est trop bon. Ouvre ta bouche, toute grande, et je la remplirai. Ouvre ta bouche, toute grande, et je te la remplirai. C'est extraordinaire. Quoi que vous demandiez en priant, on trouve ça dans Matthieu 21, verset 2, si vous croyez, vous le recevrez. Quoi que vous demandiez en priant. Ah, c'est bon, Dieu est bon avec nous. Vous savez, la foi n'est pas hésitante. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Pour ça, nous devons apprendre à ne plus jamais douter. Plus jamais douter. Pour ceux qui étaient là mercredi, remarquons qu'il y a un préalable à cela. C'est seulement lorsque nous avons ceint nos reins de la vérité, la ceinture de la vérité, et que nous ayons revêtu la cuirasse de la justice, que nous pouvons prendre le bouclier de la foi. C'est-à-dire que notre foi pourra agir véritablement comme un vrai bouclier et nous protéger des triomphes du malin lorsque tout ceci sera bien en place. Je vous invite vraiment à venir mercredi, c'est très bon. La foi se repose sur la fidélité de Dieu en tenant tout ce que Dieu a dit comme vrai, plus vrai que la réalité de ce monde matériel. Ce qui pourrait nous tourmenter le plus, c'est l'incrédulité. Et contre l'incrédulité, on met en place le sujet de notre joie, notre fidélité à Christ, notre foi en sa parole, et qu'il est bon pour l'exécuter. Il y a quelques obstacles qui peuvent nous gêner dans notre progression dans la foi. Le premier, je dirais que c'est un manque de connaissance. Donc là, premier mot, c'était connaissance. Le manque de connaissance, ce que je peux dire, c'est que, et comprenez bien, ce que vous pouvez comprendre de cela, si je ne peux pas croire au-delà de ma connaissance, eh bien, augmente ta connaissance. Non ? Augmentez votre connaissance. Dans 2 Corinthiens 8, il est dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Oui, on va être enrichi. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur. Vous devez le connaître assez. Et souvent, on a ce manque de connaissance de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que veut dire connaissance ? Connaissance, en hébreu, souvent traduit par un terme qui signifie la lucidité, c'est-à-dire la perception de la connaissance, ou plutôt la compréhension de la connaissance. Entendre parler et comprendre tout ce qui est dit pour, il y a une finalité, pour l'appliquer. C'est bien beau d'être rempli de connaissances, mais il faut l'appliquer à un moment donné, cette connaissance. Et ça, c'est la compréhension de la connaissance qui nous permet de l'appliquer. Quand on a parfaitement compris, on est à même de le pratiquer. De pratiquer quoi ? Ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient d'où ? De la parole de Dieu. Ça aussi, c'est important. Savoir signifie avoir la perception d'une chose. La posséder, c'est en comprendre son fonctionnement. Je vais vous le redire. Savoir signifie avoir la perception d'une chose. La posséder, c'est en comprendre son fonctionnement, afin que son peuple ne périsse point. C'est pour ça qu'il convient de méditer tout le temps la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'elle devienne vivante, permanente, exécutive dans notre vie. C'est Dieu, vous savez, qui a donné à l'homme ce désir d'apprendre, de connaître. Dans Proverbe 2, il est dit, verset 10, « Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. » La connaissance fera les délices de ton âme. C'est bon d'apprendre. C'est bon de retenir. La connaissance fera les délices de ton âme. Alléluia. C'est nécessaire. Regardez ce qui se passe dans Osée, chapitre 4, verset 6. « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. » Il lui manque la connaissance. Et pourquoi il lui manque la connaissance ? Parce que tu as rejeté la connaissance. Il y a le fait et l'explication. Dieu nous dit « Faites vos délices de la connaissance. » La connaissance fera les délices de ton âme. Et Osée dit « Puisque tu as rejeté la connaissance. » Le chemin est tracé là. Il faut le prendre. Dans Éphésiens 3, verset 3, il est dit « C'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. » Oui, mais c'était Paul. Nous devons lire, méditer la parole. Chacun a son joug, et notre joug est léger. C'est de notre responsabilité de prendre la parole de Dieu, de la méditer tous les jours, tous les matins, d'avoir un temps avec le Seigneur. 10% de notre temps, c'est le dîme qu'on consacre à Dieu, de notre temps, temps de partage avec le Seigneur. Et la connaissance fera les délices de mon âme. Cette connaissance, c'est lui qui va nous la donner. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous enseigner, qui va nous montrer, afin que sa parole devienne vivante, devienne réma dans notre vie. On trouve connaissance aussi dans beaucoup d'autres épîtres. Dans 2 Pierre, par exemple, chapitre 3, verset 18, « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, maintenant et pour l'éternité. » Dans 2 Corinthiens 4, verset 6, « Car Dieu, qui dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » La connaissance, la parole de ce qu'a fait Christ, va faire resplendir notre visage devant le monde. On parlait tout à l'heure d'évangélisation, on parlait de mission. Qu'est-ce qui va faire la différence ? C'est notre visage qui va resplendir de la connaissance de Christ, de la connaissance de la parole. Ça se voit. On n'aura pas besoin de dire grand-chose. Qu'est-ce que tu as, toi ? J'ai vu une photo qu'Alice a ramené du Pérou, et là, les gens, j'ai vu marqué, c'était dans une rue, et les gens s'amassaient autour, n'importe où, dans la rue, parce que l'équipe de louange venait prêcher. Les gens venaient, écoutez, qu'est-ce qu'il y a ? Qui sont ces gens ? Oh, mais c'est intéressant, ils écoutaient peut-être la parole, peut-être qu'ils ne la comprenaient pas, mais ils voyaient la différence. Alléluia. La connaissance. Connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme, qui a été fait à la mesure et à la stature parfaite de Christ. Voilà, cette connaissance qui doit arriver à la parfaite stature de Christ. Donc la première chose, c'était le manque de connaissance. Il y a un deuxième point qui est important. C'est le manque de pardon. C'est le deuxième mot très important. Vous savez, une petite réflexion aussi. Dieu est un Dieu de pardon, ça lui est nécessaire. Car si ce n'était pas le cas, il ne pourrait pas agir dans la foi. Pardonner, c'est oublier. C'est donc être libre d'agir comme s'il n'y avait aucune trace de péché. Le péché n'existe plus. Dieu est un Dieu de pardon. Dans Proverbe 25, verset 21, « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. » Si ton ennemi, pas ton ami, ton ennemi, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents, verset 22, que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Alléluia. Manque de pardon. Matthieu 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens et présente ton offrande. Là, il y a un trésor, là. C'est la clé du succès, là. Quand vous offrez une offrande à l'Éternel, des fleurs, et que vous gardez une rancune contre quelqu'un, c'est comme si vous présentez à l'Éternel ces fleurs devant un couvercle, sur un couvercle de poubelle. Va te réconcilier. Demande pardon. Et après, offre à l'Éternel quelque chose qui va être un parfum de bonne odeur. C'est le manque de pardon. Dans Romains 12, verset 18, il nous dit: s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère. Car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà ce que nous dit l'Éternel. Dans Galates 6, verset 1, un autre verset important. Frère, si un homme vient à être surpris de quelque faute, vous qui êtes spirituel, et nous sommes tous spirituels, oui, on tend, on essaye, on le proclame par notre bouche, parce que nous voulons que cela devienne une évidence. Nous savons que c'est vrai, et on veut que ce soit une évidence, que cela se voit. Vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres. Vous êtes en Christ. Accomplissez la loi de Christ. Dans 1 Jean 5, verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est la Bible qui le dit. C'est le verset 19. Nous savons que le monde est sous la puissance du malin. Mais nous savons aussi que Dieu nous garde du péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pécher. Ça veut dire que Dieu est bon. Et lorsqu'on lui confesse ce péché, lui, il est bon pour nous pardonner. Voilà ce que ça veut dire. Je ne pèche point. Mais quiconque est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Ne le touche pas. Alléluia. Le remède pour le pardon, c'est l'amour de Dieu. Dans 1 Jean 5, verset 3, il est dit: car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que nous les comprenons. Et nous les appliquons. Ils font partie de nous. Vous pensez que Dieu nous demanderait quelque chose d'impossible ? Moi, je ne crois pas. Ce que Dieu nous demande n'est pas impossible. Nous pouvons le faire. Ce qu'il nous demande, c'est d'avoir la foi. Dans Hébreux 11, verset 6, il est dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est en cela que je dis que Dieu nous demanderait-il quelque chose d'impossible ? Non. Si c'était le cas, nous aurions des raisons de douter de sa justice. Or, sa justice est parfaite. Donc, nous avons les moyens, puisque sa justice est parfaite. Nous en avons les moyens. Nous avons les moyens de quoi ? D'utiliser notre foi pour avoir la victoire. La foi qui parle et qui donne du fruit. Dans Romains 10, verset 17, on lit: ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si on n'a pas la foi, comprenez bien, ce n'est pas la faute de Dieu, comprenez ? Si on n'a pas la foi, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu a tout donné, et le moyen de la faire grandir, cette foi. Dieu nous a donné une parcelle de foi. C'est à nous de la cultiver, cette parcelle, de la faire grandir, alléluia, et devenir des géants de la foi, et des héros de la foi. J'aime bien ce mot. C'est soit par incrédulité, soit par ignorance, soit parce que c'est aussi parce qu'on veut rester dans le péché. Si on ne fait pas grandir notre foi, c'est soit par ignorance, soit par incrédulité, soit aussi parce que on veut rester dans le péché. On se dit, on ne peut pas, je ne peux pas, ce n'est pas une alternative, c'est faux. Mais moi je vous dis, c'est une fausse justification. Une fausse justification qui vous pousse à négliger ce que Dieu a fait pour vous, comprenez-le bien. Souvent les gens veulent d'abord recevoir, et ensuite, une fois qu'ils ont bien reçu, ouais, maintenant j'y crois, c'est bien. Mais vous savez, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut d'abord croire, croire jusque plus aucun doute ne subsiste sur le fait que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà. Comme ça que ça fonctionne. Et cela marche aussi bien pour obtenir quelque chose que pour abandonner une faiblesse. Aussi bien pour quelque chose qu'on en a besoin que quelque chose qu'on veut se débarrasser. C'est le même principe. La Bible dit que votre oui soit oui. Mais si vous ne voulez vraiment pas suivre Jésus et prendre votre héritage sur la terre pour vivre une vie qui soit libre, qui ne soit pas toujours liée, alors vous pouvez avoir l'alternative de dire que votre non soit non. Mais attention, il n'y a pas d'entre les deux. Que votre oui soit oui, et là, Dieu vous donne la possibilité de le faire. Que votre non soit non. Ne vous abusez pas vous-même. Dieu vous aime quand même. Même si vous lui dites non, ça ne va pas changer grand-chose à l'amour de Dieu, vous savez. Il vous aimera quand même. Mais ce que veut Dieu, c'est que dans votre vie, se réalise son plan. Car son plan est la meilleure chose dans votre vie. Son plan est la perfection dans votre vie. Alléluia. Si vous dites non, son plan va rester une probabilité qui va diminuer au fur et à mesure. Prenez votre vie en main. Vous savez que vous avez le pouvoir de dire oui. Alors faites-le maintenant. C'est aujourd'hui qu'il faut changer et accepter votre liberté. Non pas celle qui vous est promise, mais celle que Jésus a déjà gagnée pour vous. Comprenez la différence? C'est déjà fait. C'est fait. Dans Jacques 5, 12, on trouve « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Si votre non est non, ça veut dire que vous êtes perfectible et que donc le Saint-Esprit n'a pas encore travaillé. Donc vous reconnaissez que vous avez encore des choses à faire. Si votre oui est oui, alors suivez le Seigneur comme il vous l'a montré. Et là, vous aurez toute la grâce de Dieu au complet. Dans Matthieu 5, verset 37, il est dit « Que votre parole soit oui, oui ou non, non. » Et ce qu'on y ajoute vient du malin. Mais de grâce, ne dites pas « oui », mais pas pour maintenant. Ne dites pas « oui », mais je ne peux pas pour le moment. Vous tombez dans le jugement. Et c'est quoi le jugement? Alors là, vous allez aller dans Apocalypse 3, verset 16. Je ne vous l'ai pas mis dans le papier, parce que je veux, si vous avez une Bible, que vous y tourniez. Apocalypse 3, verset 16. Là, on ne joue plus. Là, c'est sérieux. Mais puisque tu es tiède, ni oui ni non, puisque tu as ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Je vais te vomir de ma bouche. C'est terrible. Je veux pas ça, moi. Je veux reconnaître que si j'y arrive pas, Seigneur, je n'y arrive pas, je te demande de m'aider. Si je te suis, Seigneur, c'est oui, oui et oui. Mais je veux pas être tiède. Je veux pas être tiède. Je veux être bouillant pour le Seigneur. Alléluia. Dans Marc 11, verset 24, on lit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Quand vous priez pour avoir quelque chose ou pour se débarrasser de quelque chose, priez « oui, oui » ou ne priez pas. Dites « oui, Seigneur, oui, je veux. » Et je sais que par ma foi, ce que je t'ai demandé, que ce soit quelque chose à prendre ou quelque chose à enlever, je l'ai. C'est effectif. Parce que vous le verrez s'accomplir. Vous savez, souvent les gens confondent quand ils prient. Quand ils prient, les gens confondent. Ils se disent, bah, la foi, c'est de se persuader que je vais m'arrêter, faire ça, ou se persuader que je vais avoir ça. Je sais que je souhaite l'avoir, mais tout ce que je fais, c'est je me répète pour que je me persuade. Non, non, non. La foi, ce n'est pas de l'autosuggestion. Comprenez bien. La foi, ce n'est pas ça. La foi, ce n'est pas de l'auto-persuasion. La foi, c'est la confirmation dans notre cœur que Dieu vous a exaucé. Ce n'est pas pareil du tout. Même un enfant peut comprendre ça. Alléluia. C'est sûr qu'il peut y avoir des tas de choses qui entraînent la réalisation de ce qu'on attend. La crainte, l'impatience, l'incertitude. Et si vous restez dans la foi, si vous avez confiance à Dieu, même si ça prend du temps, certaines personnes ont attendu des jours et des jours, ça ne va pas changer la nature de ce que Dieu vous a promis, et ça ne va pas changer la nature de ce que Dieu va vous montrer comme étant réel dans votre vie. Ça ne va pas changer ce que Dieu vous a donné. Comprenez ? Votre foi, si elle est basée sur la parole de Dieu, ben il faut tenir bon et attendre. Parfois, il faut attendre. Mais surtout, il faut rester dans la parole. Ne pas vous éloigner de la parole. Alléluia. Dans Marc 11, verset 23, il dit « Si ne doute pas dans son cœur. » C'est-à-dire, si le fondement dans le cœur, autrement dit, si la loi de Jésus, ce qu'on a dit tout à l'heure, était gravée dans notre cœur, alors la foi agit. Et la foi ne peut conduire qu'à la victoire si la loi de Jésus est gravée dans votre cœur. Alors pourquoi est-ce qu'on parle du cœur ? Ben parce que le cœur est le siège de notre esprit. Et c'est bien évident que tout se détermine dans l'esprit, dans le monde spirituel. Nous sommes des êtres spirituels. Nous possédons une certaine intelligence. Nous vivons dans une enveloppe charnelle. Mais l'aspect spirituel de ce que nous faisons, agissons, demandons, c'est plus sûr et plus tangible que tout ce qui est matériel. Parce que, tôt ou tard, tout ce qui est matériel retournera en poussière. Mais l'esprit est éternel. Alors comment grandir dans sa foi ? Parce que c'est ça finalement la finalité. Je pense qu'on a un petit peu de temps. Je vais vous lire un passage qui m'a assez étonné. C'est dans Josué 10, verset 13. C'est un miracle. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Ça, c'est l'expression de la foi qui entraîne une action de Dieu au travers de la puissance de son esprit. Oui, il a pu le faire. Pas avec sa force. Méditez ceci. Regardez ce qu'il a fait. Notre ami Josué. Alors, bien sûr que la foi, je disais tout à l'heure, se rit des obstacles. Comment ? Prenez coutume d'écouter la parole de Dieu jusqu'à ce que votre foi apparaisse, commence à sortir. Ensuite, déclarez la parole. Ensuite, agissez en conséquence. Ce que je suis en train de faire correspond à ce que j'ai déclaré. Ensuite, tendez les bras et recevez. Et enfin, et ce n'est pas des moindres, témoigner, raconter la vérité. Nous devons être patients avec les gens, mais intransigeants avec les choses. Nous aimons les gens, mais nous haïssons le péché. Vous savez que la foi prépare votre futur, la foi est la victoire. Je ne vais pas aller très loin, peut-être pas tout faire, mais je pense qu'il faut au moins lire ce verset. C'est 1 Jean 5, verset 4. C'est très important. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Celui qui triomphe du monde, c'est celui qui croit que Dieu est capable. Alléluia. Je ne vais pas aller plus loin. Alors, remercie Seigneur de ce qu'on a appris, de ce qu'on a entendu, que ceci soit gravé dans notre cœur, afin que plus jamais on ait à se poser des questions. C'est sûr que c'est important qu'on change notre vie, qu'on soit un témoignage. Cela se voit dans notre vie. On te rend grâce, Seigneur, parce que cette semence, ta parole, dans notre cœur, a été semée, Seigneur. Et rien ne peut l'enlever, parce qu'elle a été scellée par ton esprit. Scellée. Merci, Seigneur. Enracinée, elle va produire. Elle va produire du fruit, Seigneur. C'est la parole qui produit le fruit. On te rend grâce, Seigneur, parce que notre vie et transformé, Seigneur, de gloire en gloire. Te remercie, Seigneur, parce que nous voulons apprendre de toi. Nous voulons rester dans la pureté, Seigneur. Justifié par toi, Seigneur. Tu nous as justifiés, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie. On a coutume, dans cette église, de laisser la chance, une chance incroyable, à toute personne qui n'aurait pas encore fait de Jésus son Seigneur, de venir et de l'accueillir comme notre Seigneur et Maître, se confier en Jésus. Si une personne est dans ce cas, qu'elle le montre, qu'elle lève la main, nous prierons pour lui. On remercie tous ce Seigneur. On remercie tous ce Seigneur. Il y a une dernière petite chose que le Seigneur m'a montrée. J'ai vraiment envie de le faire. Je ne sais pas où ça va nous mener. J'ai encore 5 minutes. Je suis là-dedans, moi aussi. Peut-être que on a oublié certaines choses dans notre vie. Peut-être que maintenant, on se rend compte que notre oui n'a pas toujours été oui. Et qu'on n'a peut-être pas aussi reconnu notre nom, mais qu'on était entre les deux. C'était tiède pour le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'opportunité de lui dire, Seigneur, je te renouvelle, Seigneur, ma foi. Je te dis, Seigneur, qu'aujourd'hui, je veux renouer avec toi. Que mon oui soit oui, Seigneur. Et que mon non soit non, mais que tu m'aides, Seigneur, là où je ne sais pas encore, où je ne peux pas, Seigneur. Et je reconnais, Seigneur, je ne peux pas. Je reconnais que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide, Seigneur, pour avancer. Peut-être que si le cœur vous pousse, vous pouvez venir ici et tous dans le silence, dire à notre Seigneur qu'on va renouveler notre foi devant lui. Si vous le voulez, sentez-vous libre de venir là et de prier le Seigneur. Père Céleste, nous adressons à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Ta parole déclare, Seigneur, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je fais appel de ton nom, Seigneur, et je sais que je suis sauvé. Je crois de tout mon cœur, Seigneur, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et je crois, Seigneur, que tu l'as ressuscité d'entre les morts, que Jésus a porté tous nos péchés, passés et futurs, et qu'aujourd'hui je suis lavé, justifié, et qu'une porte grande ouverte jusqu'à ton trône de grâce. Je confesse que Jésus est mon Seigneur et mon Maître. Amen. Merci.